C'est bientôt la rentrée et il n'y a pas que les élèves qui doivent se préparer, mais aussi tous les professeurs. Nous avons rencontré Vivien Herbreteau, enseignant d'histoire dans une école francophone à Dartmouth, qui nous explique comment il prépare sa 9e rentrée.
Alors, ça va être, hein, c'est que le temps passe vite, hein, mais ça va être ma 9e rentrée. Donc, oui, je commence à savoir un petit peu de quoi je parle. En fait, les enseignants, c'est pas juste un bloc. Tu as différentes manières de te préparer suivant les niveaux, suivant quel type d'enseignant tu es. Donc, moi, je suis un enseignant de matière, mais tu as aussi des enseignants spécialisés comme les enseignants ressources. Ça fait que moi, en tant qu'enseignant de matière, surtout aux plus âgés, j'ai des cours à préparer, donc il faut que je relise bien mes notes, il faut que je m'assure de vérifier qui sont mes élèves, combien d'élèves est-ce que j'ai, il faut que je crée le support technologique pour mes élèves. Donc nous, on a accès à la suite Google, donc principalement Google Classroom. Ça fait que c'est super pratique, mais il faut que il faut que tu les prépares, en fait, que tu ajoutes des images, que tu mettes le titre, que tu rajoutes les élèves et tout ça. Donc, tout ceci prend du temps. Tu as aussi les tâches administratives de essentiellement s'assurer que ton cartable de suppléance soit à jour. Il faut suivre les courriels parce qu'il y a des dates importantes. Donc, voir tous les courriels, ça fait que c'est beaucoup de petites tâches administratives. Et vu que moi, c'est ma 9e rentrée, que je suis permanent et que je fais partie un petit peu des meubles de l'école, on m'a pas bougé de salle de classe, mais tu en as beaucoup qui doivent des fois se déplacer, puis déménager d'une salle de classe à une autre. Bon, c'est pas comme déménager de maison, mais ça implique beaucoup de changements de matériel et puis tu dois prendre ta décoration, puis là, aller dans une autre classe, tout remettre, te faire ton petit chez toi. Et ça prend beaucoup de temps. Heureusement, je n'ai pas besoin de le faire. Mais oui, donc ça fait que une rentrée, donc ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu vas enseigner, mais c'est beaucoup de petites tâches administratives en fait. Tu as une longue liste de choses à faire.
Vous l'aurez compris, les enseignants se préparent donc bien avant la rentrée des élèves qui aura lieu le 6 septembre.
Tu as certains enseignants qui préfèrent travailler de la maison. Donc, c'est typiquement pas mon cas, mais ça donne que ce matin, j'ai choisi de prendre ça un petit peu cool et puis de travailler de la maison. Mais habituellement, moi, pour donner un exemple, j'ai commencé à travailler à partir du 21, lundi 21. Donc, ça fait déjà une semaine que je prépare tranquillement ma rentrée. Donc, oui, alors, il y a toutes sortes de... Comment ça s'appelle? Les gens pensent toutes sortes de choses à propos des enseignants en été, mais disons que moi, je commence sérieusement à penser à travailler après le 15 août. Donc, le 15 août, je fête. OK, à partir du le 16 août, bon, je récupère. Allez, on va dire à partir du 17 août, c'est là où je commence à penser à qu'est-ce que je vais faire pour l'année scolaire. Donc, je m'y mets peut-être allez, 2 semaines avant la vraie rentrée, parce que là, donc déjà ce vendredi, on a nos premières réunions. Lundi, c'est férié. Puis mardi, on a d'autres réunions aussi, des réunions pédagogiques. Ça fait que. Et puis les nouveaux enseignants, ils ont encore plus de réunions ils ont eu la semaine dernière. Donc en fait, on commence à travailler plus tôt que le public général pense.
Monsieur Herbetreau essaye d'adapter ses cours chaque année en fonction de l'actualité.
Ça dépend de l'enseignant, ça dépend des cours que tu enseignes. Les cours sont renouvelés régulièrement. Soit des fois, tu es obligé de refaire ton cours. Si tu es un enseignant de première année, habituellement, tu vas peut-être avoir des collègues qui vont te donner du matériel, mais sinon, il va falloir que tu construises tout. Ça fait que ta rentrée est beaucoup plus tôt que le 21 août pour moi. Il va falloir peut-être que tu travailles presque tout l'été parce que construire un cours, et c'est assez long. Puis si tu en as plusieurs, ça prend du temps. Parce qu'une fois que l'année commence, tu n'as pas de pause ou tu as très peu de pause. Donc c'est vraiment là le dernier moment de temps que tu as pour toi. Puis donc, moi... J'ai pas de changement de cours, mais j'aime garder mes cours le plus pertinent possible. Ça fait que je les mets à jour quasiment à chaque année. Donc, vu que j'enseigne les cours d'histoire, je me base sur l'actualité, je me base sur ce qui se passe présentement pour essayer d'attraper l'intérêt des jeunes. Puis surtout, en fait, les jeunes, de par les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, sont beaucoup plus au courant de l'actualité que ce que l'on penserait. Ça fait que, donc, un de mes cours que je vais enseigner, c'est Histoire planétaire. Donc, c'est surtout la guerre froide. Puis donc, la guerre froide, c'est URSS contre États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui se passent présentement avec la Russie. Ça fait que, donc, j'essaie de rendre les cours un peu plus pertinents. Ça fait que la base reste la même, mais les leçons, je les change un petit peu. Ça fait que je profite de ce moment-là à la fin d'été pour mettre à jour mes cours pour les rendre les plus pertinents possibles.
Voici ses conseils pour les élèves.
Si j'ai des conseils pour les élèves, c'est surtout se préparer mentalement. ça fait qu'il y a, suivant l'enseignant, suivant l'école, les cours, etc., donc il y a la liste de matériel à récupérer. Mais moi, dans ma salle de classe, j'ai relativement besoin de peu de matériel, donc je m'attends juste à ce que les jeunes apportent leur ordinateur scolaire, donc leur Chromebook. Feuilles, papier et cartable, c'est pas mal ça, ce dont j'ai besoin. Donc, moi, c'est surtout vraiment se préparer mentalement à vraiment à quoi leur semestre va se passer, puis aussi suivre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'actualité pour éventuellement me poser des questions.
Durant la dernière année scolaire en Nouvelle-Écosse, il y a eu des grèves de la part des enseignants concernant leur salaire. Nous avons demandé si ces revendications s'appliquaient aussi dans son cas.
Alors, ça va être plutôt plate, mais plutôt non. Plutôt non, parce que c'est pas du tout. C'est le même domaine global, mais c'est pas les mêmes revendications, c'est pas les mêmes conditions de travail. Comme même si, OK, les universités en Amérique du Nord sont des institutions genre semi-privées, semi-publiques. Alors que moi, mon employeur, c'est mon conseil scolaire, mais c'est surtout la province. Ça fait que mon syndicat, c'est un syndicat d'enseignants qui est très spécifique à la Nouvelle-Écosse. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes revendications. En fait, ils ont commencé au printemps, je pense. Ils ont commencé déjà les premiers pourparlers avec le gouvernement provincial pour éventuellement signer une entente. Puis le gouvernement provincial, pour l'instant, avec les autres syndicats, ils ont l'air plutôt ouverts. Mais ce n'est pas la même chose que les universités où l'employeur, c'est l'université elle-même. Donc, en fait, on n'est pas vraiment dans la même logique, on n'est pas dans les mêmes revendications. Donc, oui, c'est le même domaine de l'éducation, mais ce n'est pas exactement les mêmes conditions. Donc, ça s'applique pas trop à moi.
La pénurie d'enseignants est cependant une réalité autant du côté anglophone que francophone.
Absolument. Donc, je te donne l'exemple de quand moi j'ai commencé. J'ai commencé en septembre 2015. Dans mon école, en fait, qui était une autre école à ce moment-là, il y avait deux postes à pourvoir. Il y en a un que je ne pouvais pas y accéder parce que je n'avais pas les qualifications ni même les connaissances. C'était en maths ou en sciences, un truc comme ça. Et puis, donc, c'était un poste de français et DPS, donc l'équivalent des développements personnels et sociaux. C'est comme le cours de santé et de société. Et mon autre choix, c'était une autre école avec deux postes. Donc vraiment, j'avais comme trois postes à poursuivre, en gros. Puis donc, j'ai vraiment eu la chance d'avoir été choisi. Donc, je suis vraiment très reconnaissant. Et puis, après ça, donc, quand j'étais pas permanent, à la fin de mon année, c'était pas garanti que je sois gardé dans l'école. Heureusement, ça a bien fonctionné. Mais voilà, donc le marché du travail était très différent. Et donc maintenant, non seulement mon conseil scolaire est à la recherche d'enseignants, mais en plus, il ouvre des écoles. Donc ça, c'est bien. c'est bien, on accroît la population, on accroît les étudiants francophones, mais non, on est dans une situation de pénurie d'enseignants, mais en plus, il faut trouver encore d'autres enseignants. Donc, vraiment, c'est une situation un peu particulière que moi, je n'avais pas vraiment vue dans mes 9 ans de carrière, en gros. Et puis, donc, oui, on est en situation de pénurie. Alors, dans mon cas, dans l'école, je pense que tous les postes sont comblés, donc ça ne m'affecte pas, mais disons qu'on a plusieurs tout nouveaux qui sont leur première année. Et ça, j'avais pas vu cette situation avant. Donc, habituellement, tu sais, t'as le petit nouveau, mais là, on en a plusieurs. Donc, on va falloir qu'on fasse du mentorat, puis j'ai hâte de travailler avec ces tout nouveaux gars qui vont apporter un petit peu de fraîcheur dans nos rangs.
Pour motiver de futures carrières, voici les avantages à faire ce métier selon lui.
Il y a plusieurs avantages à être enseignant. Tout d'abord, nos conditions de travail sont, pour la province de la Nouvelle-Écosse, on n'a pas à se plaindre. On est bien payé, on a des bonnes conditions d'emploi, on a des bonnes avantages sociaux, etc. Donc vraiment, moi, je me plains pas. Surtout que, OK, peut-être que quand tu commences, t'as pas le meilleur salaire, mais ça augmente rapidement. Puis, tu as des avantages d'avancement aussi. Donc, par exemple, tu peux faire jusqu'à 3 maîtrises ou 3 diplômes postsecondaires pour augmenter ta certification. Puis moi, j'en ai déjà un. J'en poursuis un autre, une maîtrise en éducation. Ça fait que vraiment, les avantages sont plutôt bons. Les écoles, au niveau des écoles, en tout cas, moi, les écoles auxquelles j'ai travaillé, j'avais des super bons collègues, on s'entendait bien. Les classes, bon, pourraient être plus petites, mais disons que tu sais, tu as une bonne connexion avec les élèves. Moi, je m'entends bien avec les jeunes. L'été qui, bon, et c'est pas deux prépare, mais tu as des vacances, donc ça c'est une bonne. Ça, c'est une bonne situation. Puis, en gros, tu as des avantages, tu as pas mal d'avantages pour aussi te perfectionner toi, comme par exemple. Comité au ministère pour travailler sur l'examen de français 10. Donc moi, ça m'aide à me perfectionner en tant que professionnel.
Et puis, comme il nous l'explique, les enseignants francophones jouent un grand rôle dans le maintien de la francophonie dans une province majoritairement anglophone.
T'sais, si vraiment tu as à cœur le français en milieu minoritaire, alors c'est trop stressant d'y penser, mais disons que nous sommes les personnes les plus importantes pour maintenir le français dans notre communauté. Il n'y a personne qui aura cet impact-là sur quoi, 12 ans de scolarité, sur garder des jeunes francophones dans nos régions, essayer de conserver les francophones, mais aussi d'essayer d'avoir des personnes qui sont anglophones ou allophones, puis de les transformer en francophones. Puis ça m'arrive régulièrement. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'aller à l'épicerie ou dans un magasin, puis tu as le jeune qui est juste fier de te voir en tant qu'être humain dans son magasin, tu sais, puis de vraiment te servir en français. Puis comme moi, j'enseigne les plus vieux, ça m'arrive régulièrement. Chaque fois que je vais au mall, chaque fois que je vais à un magasin, non seulement je rencontre régulièrement des jeunes, mais comme ils viennent me voir parce qu'ils veulent me servir en français, puis ils sont vraiment fiers de le faire. Donc il y a vraiment cet avantage-là culturel francophone que tu les vois en salle de classe, ils sont en train de travailler, mais là hors de la salle de classe, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, c'est vraiment beau de voir ce côté-là aussi.
Merci à Vivien Herbreteau pour cette entrevue et bonne rentrée à tous. C'était Adèle de C98 pour IGL Halifax.